Les tsars du ballon rond. Le quart d'heure des spécialistes.
Et bienvenue à vous dans les tsars du ballon rond, l'émission de la Coupe du Monde. Avec dans un instant le quart d'heure des spécialistes, ce sera avec Stéphane Anchaud, ancien international suisse qui a beaucoup joué en Angleterre, notamment du côté de Liverpool. On parlera évidemment un petit peu de l'équipe anglaise. Un petit point sur les matchs du jour. La Colombie mène 1-0 face au Sénégal. La Pologne mène 1-0 face au Japon. Pour l'instant seraient qualifiés la Colombie et le Japon. Le Sénégal serait pour l'instant éliminé. Juste avant d'accueillir Stéphane Anchaud, le portrait de Stéphane Anchaud par l'inévitable Jérôme Moutet.
Stéphane Anchaud, vous êtes né le 7 septembre 1974 dans une petite localité du district de la Glane, dans le canton de Fribourg. Vous êtes né la même année que Robbie Williams, qui fait des doigts d'honneur aux caméras, qu'Ophélie Winter, qui a un jour essayé de chanter, que Victoria Beckham, qui a un jour essayé d'être autre chose que la femme de David, ou encore que Doc Gineco, qui a son cabinet ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h avec consultation gratuite le samedi matin. Vous débutez tout petit au FC Fétigny, puis c'est la montée vers le Graal. Stéphane, avec un parcours en flèche, le défenseur central de référence en Suisse. Un défenseur central qui aime le vice, on verra pourquoi plus tard. Vous entamez votre parcours professionnel à Neuchâtel-Xamax, où vous jouez 94 matchs. D'ailleurs, peu avant d'être transféré en Allemagne, je me souviens d'un match de Coupe de Suisse face au SR de Léman. Les Jurassiens menaient 2-0. Moi, tout petit, avec mon maillot jaune et noir, croyais à l'exploit. Mais soudain, sur un corner, un défenseur central monte, cafouillage, but de la tête. Non, but d'une talonnade signée Stéphane Anchaud. Mais ce but de Renardi Surface n'avait pas suffi et les SR de Léman vous avaient éliminé. Comme quoi, les miracles existent. Votre carrière se poursuit à Hambourg pour 52 matchs. Puis, Blackburn, où vous jouez 82 matchs, et c'est là que vous tapez dans l'œil des dirigeants de Liverpool. Oui, le grand Liverpool. À l'époque où ce club avait autre chose au but que des aveugles et malvoyants, accompagnés d'une canne blanche et d'un labrador. Vous y êtes transféré en 99 et vous y resterez durant 6 ans. 6 ans dans le même club, Stéphane. Là aussi, il faut remonter bien loin pour trouver pareille fidélité avec un grand club. Il n'y a peut-être que Raphaël Nuzzolo, qui en est bientôt à sa 45e saison avec Xamax, qui est devant vous. À Liverpool, vous gagnerez 6 trophées. Coupe de la Ligue, 2 fois, Coupe d'Angleterre, Coupe UEFA, Charity Shield, Super Coupe de l'UEFA et vous terminez même 2e du championnat en 2002. Tout est beau, tout est neuf, mais vous n'êtes pas lavé avec Mirlène et c'est à ce moment-là qu'il se passe le drame. Stéphane, vous quittez Liverpool lors du mercato de janvier 2005, soit 4 mois avant la victoire du club en finale de la Ligue des Champions. C'est terrible, à 4 mois près, vous auriez pu y être, mais non, quel drame. Vous signez alors au Celtic de Glasgow, avec qui vous terminez vice-champion d'Écosse en 2005, mais plus rien ne sera comme avant. Vous passez encore par Wigan Athletic pour terminer votre carrière à Blackburn. Aucun titre de champion, mais double vice-champion, et c'est là qu'on se souvient que vous aimez le vice. Si l'on ajoute à tout cela vos 72 sélections en équipe suisse, ça vous fait 565 matchs chez les professionnels. Bravo Stéphane, et le tout avec un nombre de buts marqués qui pourrait faire pâlir notre ami Haris Seferovic, puisque durant votre carrière, vous marquez la bagatelle de 3 buts. C'est peut-être un bug statistique, mais je ne crois pas. Par la suite, vous dirigez le FC Bull. Puis, en décembre 2015, vous assistez Michel de Castel à Neuchâtel-Xamax FCS en conseillant les défenseurs, puis en devenant entraîneur adjoint. Stéphane Anchaud se souviendra de vous comme un consultant TV qui s'améliore de fois en fois, mais c'est vrai que vous partiez de loin. Mais on retiendra surtout que vous avez joué dans un club mythique durant 6 ans et que vous avez manqué la coupe aux grandes oreilles pour quelques mois. Mais qui sait, c'est peut-être avec Xamax que vous la soulèverez. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Stéphane.
Et il a bien sûr écouté ça avec grande attention. Stéphane Anchaud, bonsoir.
Bonsoir.
Ça vous colle bien ce portrait? C'est un regret pour vous d'avoir effectivement raté cette finale de Ligue des Champions? Vous l'avez encore en travers de la gorge ou pas?
Ouais, effectivement. C'est vrai que si je pouvais remonter dans le temps, ben voilà, je serais resté à Liverpool. Mais comme je jouais un peu moins avec le nouvel entraîneur, je me suis dit, bon, j'ai envie de plus jouer. J'avais 31 ou 32 ans. Et puis c'est vrai que j'ai jamais pensé que cette année-là où on avait juste passé la phase de poule, Liverpool allait aller jusqu'au bout. Donc, elle a gagné cette coupe-là. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je crois que globalement, je suis quand même plus que heureux et satisfait de la carrière que j'ai faite. Et puis je crois qu'il ne faut pas trop regarder en arrière.
Effectivement, vous pouvez, je pense, être heureux du beau parcours. On va passer aux choses plus réjouissantes, Stéphane. La Suisse s'est qualifiée hier soir pour les 8e de finale de la Coupe du Monde après son match nul, 2-2 face au Costa Rica. Une première réaction après cette qualification. La Suisse a souffert hier soir, mais il faut retenir l'essentiel. Il ne faut pas être trop dur avec la prestation d'hier des hommes de Petkovic.
Non, je pense qu'il faut effectivement retenir la qualification, parce que malgré tout, c'était un groupe au tirage au sort difficile. Hein. On avait naturellement le Brésil. Après, derrière, on avait derrière le Brésil, on avait la Serbie, qui était plus ou moins du niveau de la Suisse. Donc, quand on a eu le tirage au sort, on s'est dit bon, ça va être dur. Puis au bout du compte, la Suisse, elle a quand même bien maîtrisé ses deux premiers matchs. Elle a fait le nécessaire à ce moment-là. Hier soir, c'est sûr que dans le contenu du match, c'était pas terrible. L'essentiel, c'était de pas perdre et de se qualifier.
On remarque quand même que c'est un mal récurrent que les débuts de match. Alors hier, l'ouverture du score est plutôt pour la Suisse, évidemment. Mais dans les premières minutes, c'est quand même un petit peu le feu sur le but de Yann Sommer. Vous qui connaissez le contexte de ces matchs-là, comment ça s'explique 3 fois de suite en Coupe du Monde d'entrer timidement dans les parties? C'est de la pression? C'est de la timidité? Comment ça s'explique?
Bon, il faut jamais oublier que c'est vrai que la Suisse, elle est pas bien rentrée dans le match contre la Serbie hier soir. Contre le Brésil, le début de match était pas trop trop mal. Hein. C'est après 15-20 minutes que là, et le Brésil a un peu poussé et a fait la différence. Quand on joue des matchs à ce niveau-là, il y a aussi un adversaire qui, lui, veut entamer souvent la partie pied au plancher. Que ça soit contre la Serbie surtout, c'est vrai que là les Suisses ont fait bousculer et c'était surtout dans l'impact physique qu'ils ont eu des problèmes. Ils sont dans les derniers matchs, dans les 2 dernières années, ils n'ont pas joué un grand nombre de matchs à ce niveau-là, à part les 2 matchs contre le Portugal, je dirais. Donc c'est vrai que tout d'un coup on arrive, on joue à ce niveau. On est surpris, même si on a préparé le match, que mentalement on est là, on est surpris de l'impact physique. Donc là, ils ont eu de la peine. Mais après, on a vu qu'ils ont réussi à revenir à un niveau de jeu qui était excellent au deuxième mi-temps. Hier soir, je pense que c'est plutôt au niveau de la mentalité. C'était un match où il n'y avait pas d'obligation de gagner. Oui. En guillemets, on pouvait même se permettre de perdre. Donc, quand on entame une partie comme celle de hier soir, c'est toujours un petit peu compliqué de rentrer dans le match. C'est le contraire du Costa Rica. Eux, ils étaient éliminés. La seule chose qu'ils avaient envie, c'était de finir, de gagner un match, ou en tout cas de faire un point avec 15 000 spectateurs au stade, un public qui était derrière eux. Donc, entre guillemets, de tout donner pour se faire plaisir. Je pense que c'est surtout par rapport au contexte du match que hier soir, on a eu une entrée de match nouveau difficile.
On va passer à l'Angleterre qui joue ce soir contre la Belgique. C'est la dernière belle affiche de la phase de groupe. Vous avez beaucoup joué en Angleterre, on l'a dit dans le portrait, 6 saisons à Liverpool notamment. Une Angleterre impressionnante face au Panama, un petit peu moins contre la Tunisie sur son premier match. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ces Anglais, Stéphane Anchaud, sur ce que vous avez vu?
Alors, contre le Panama, naturellement, elle a joué l'équipe la plus faible du mondial. Donc, oui, elle a marqué 6 buts. C'est surtout bien pour la confiance, mais je pense que c'est pas la peine de trop juger par rapport à cet adversaire. Contre la Tunisie, l'Angleterre, elle m'a bien plu. Même si elle a dû attendre la fin de match pour passer l'épaule, globalement, elle m'a plu dans le jeu. On a eu un jeu qui était moins stéréotypé que par le passé avec les Anglais, où c'est clair qu'on a toujours eu une culture de verticaliser très vite, de jouer la deuxième balle et de souvent au haut niveau de perdre ses ballons trop trop vite et puis de pas arriver à produire du jeu. Là on a une génération de joueurs qui maintenant arrive, je pense, gentiment à maturité. C'est encore un petit peu trop tôt, je pense, pour ce mondial-ci, mais qui ont eu une formation, différente, parce que la fédération anglaise s'est quand même rendu compte que depuis 1966, ils ont rien gagné, les Anglais. Ils se sont souvent fait éliminer relativement tôt dans les tournois.
Effectivement.
Ils ont changé un petit peu leur mode de formation, aussi en allant regarder ce qui se passait dans les autres nations à côté de chez eux, et en se disant il faut travailler techniquement plus avec nos jeunes joueurs, parce que le bagage technique était souvent insuffisant. On avait seulement le fighting spirit qui sont dans les gènes des Anglais, mais il manquait justement cette technique individuel. Puis là, on commence à avoir des joueurs qui sont à ce niveau-là intéressants. Je pense comme Sterling, comme Dele Alli, comme Lingard, Rashford. Des joueurs qui sont capables de jouer au foot. Puis je pense que les Anglais l'ont démontré dans ce début de tournoi.
On a quand même une équipe anglaise qu'on trouve impressionnante dans la dimension athlétique, avec des joueurs très rapides. Il y a énormément de joueurs qui sont capables de déposer la plupart des adversaires et des défenseurs sur une accélération. Vous parlez justement d'une meilleure maîtrise technique au fil des années. On comprend dans vos propos que ça a évolué, le foot anglais, depuis le milieu des années 2000 où vous jouiez là-bas. Est-ce que vous diriez quand même que l'Angleterre est arrivée à une maturité technique des manieurs de ballon comme les équipes latines? On pense à l'Espagne, aux Sud-Américains, ou alors on a encore quand même un petit retard en Angleterre par rapport à ces pays-là?
Non, je pense qu'on arrive gentiment à avoir des joueurs de leur niveau individuel. Par contre, le problème qu'on a avec les Anglais, c'est leur manque d'expérience, malheureusement. Là, on a une génération de joueurs qui sont, je dirais, suffisamment talentueux pour viser une place dans le dernier carré, hein. Peut-être pas champion du monde, mais dans le dernier carré, ça devrait éventuellement être un objectif pour eux. Par contre, leur manque d'expérience, ben, à ce niveau, et on sait très bien que quand on atteint souvent les quarts de finale, même à partir des huitièmes, des éliminations directes, l'expérience, elle est extrêmement importante, hein, si ce n'est décisive. Et on a des joueurs anglais qui, malheureusement pour eux, souvent dans leur club ou en première ligue, n'occupent pas des postes de leader. Ça, c'est le grand problème. Ouais. Ils jouent pour la plupart dans des grands clubs, oui, mais quand ils jouent, parce que souvent ils ne sont pas titulaires, on prend Rashford et Lingard, ils jouent, mais un match sur deux, c'est pas forcément des titulaires indiscutables. Et souvent, les postes de leader sont occupés ou presque systématiquement par des étrangers. Et quand ils arrivent en équipe nationale, uniquement entre joueurs anglais, entre eux, on a un peu des problèmes justement de leadership, des joueurs qui ont l'habitude d'avoir des rôles importants dans leur club. Ils ne l'ont pas. Quand ils arrivent en équipe d'Angleterre, il n'y a pas grand monde pour prendre ces responsabilités. Je pense que, à part Harry Kane qui est capitaine aussi à Tottenham, sinon on a souvent des joueurs qui se contentent, on va dire, de jouer leur rôle, de faire des bonnes performances individuelles, mais qui sont pas des leaders naturels.
La faiblesse, est-ce qu'elle se situe comme éternellement, j'ai envie de dire, en Angleterre, sur la ligne arrière et notamment ce poste de gardien? C'est encore un petit peu le point faible cette année?
Oui, c'est vrai que le gardien, c'est culturellement un poste où en Angleterre, les Anglais ont souvent eu des problèmes.
On rappelle qu'ils n'ont pas pris Joe Hart, le gardien de City, hein, cette année.
Oui, alors effectivement, là, il était prêté à West Ham, mais il a peu joué. Mais bon, on se rend compte qu'en Angleterre, sur les 20 clubs de Première Ligue, je n'ai pas fait le compte exact, mais je pense qu'il n'y a que 3 ou 4 gardiens anglais qui jouent. Et en tout cas pas dans le top 6. Alors ça, c'est une certitude. Dans le top 6, on n'a pas de gardiens anglais qui jouent. C'est tous des gardiens étrangers. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on n'a pas de gardiens suffisamment talentueux, expérimenté pour occuper ce rôle-là. Donc là, maintenant, on a un gardien, Pickford, qui joue à Everton et qui a fait une saison, on va dire moyenne, hein, qui n'a pas fait une énorme saison ni individuellement ni avec son club. Oui, c'est un point d'interrogation. Là, il n'a pas été énormément testé. Si ce n'est pas du tout dans les deux premiers matchs, ce soir, il va probablement être pour la première fois testé dans ce mondial. Donc c'est un point d'interrogation. Après, défensivement aussi, on a une défense à 3. C'est une des seules équipes. Il n'y a pas énormément d'équipes qui jouent à 3. Les Belges, hein, ont aussi joué à 3. Les Anglais, puis il y avait Costa Rica naturellement à 3. La plupart des équipes ont joué à 4. Les Anglais jouent à 3. Donc là aussi, il va falloir voir ce soir contre un très bon adversaire si la solidité défensive est là, et si elle peut leur permettre d'espérer plus qu'un huitième de finale.
Dernier mot très rapide, Stéphane Anchaud, parce que le temps tourne. On comprend à travers vos propos que vous ne placez pas encore l'Angleterre de 2018 parmi les prétendants à un titre mondial.
Non, je pense pas. Après, c'est comme toujours, hein, une surprise. Oui, c'est.
Et il y en a déjà eu.
Il y en a à ce mondial, c'est un peu le mondial des surprises. Effectivement, on voit que les grandes équipes ont énormément de mal, si ce n'est à se qualifier, ou, en tout cas à gagner des matchs. Mais les Anglais, je pense que ce soir, le match contre la Belgique, même si, encore une fois, l'enjeu est un petit peu comme la Suisse hier soir, hein, peut être un petit peu difficile de juger par rapport à ça, mais je pense qu'ils ont du potentiel pour aller relativement loin. Bien. Je ne pense pas qu'ils ont l'expérience suffisante pour aller au bout.
Merci beaucoup Stéphane Anchaud d'avoir été avec nous dans les tsars du ballon rond, et puis on vous souhaite évidemment une très bonne continuation et au plaisir de vous retrouver comme adjoint avec Xamax la saison prochaine en Super League. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci, très bonne soirée.
Les tsars du ballon rond, le quart d'heure des spécialistes.